Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est concerto. Mais qu'est-ce qu'un concerto ? Eh bien, on peut dire que c'est une sorte de symphonie. Une symphonie presque toujours divisée en trois mouvements, mais une symphonie dans laquelle un instrument soliste, voire plusieurs, dialogue avec l'orchestre. Bon, alors quand je dis dialogue, vous savez ce que c'est, les dialogues. Parfois c'est à égalité, parfois l'un vole la vedette à l'autre, la vie de couple, quoi. Et l'on commence avec l'instrument roi, le soliste par excellence, j'ai nommé le violon. Et pas n'importe quel violon, puisqu'il s'agit de celui du célèbre Paganini, violoniste virtuose italien du 19e siècle, qui soulève à son époque un enthousiasme proche de l'envoûtement. Un homme étrange au demeurant, aussi maigre qu'on peut l'être, teint blême, nez d'aigle, long doigt osseux. À peine paraît-il pouvoir supporter ses habits. Et quand sur scène il fait la révérence, son corps se meut d'une façon si singulière que l'on craint à tout moment de voir ses pieds se séparer du corps et l'homme entier s'écrouler en tas d'ossements. On raconte même que notre grand virtuose aurait pactisé avec le diable. Rien que ça. Moi je crois surtout qu'il avait un grand sens de la communication, accentuant même le teint blafard de son visage par du maquillage. Alors Paganini n'a composé que pour des instruments dont il jouait lui-même. Le violon, l'alto, la guitare. Il nous laisse ainsi pas moins de 6 concertos pour le violon. Le plus connu est incontestablement le deuxième, habituellement surnommé la campanella, autrement dit la clochette en raison de son final. Tendez bien l'oreille et vous comprendrez pourquoi. Thank you. Nous écoutions le final du second concerto pour violon de Paganini, concerto surnommé, je vous le rappelle, la Campanella, et c'était interprété par le violoniste allemand Rudolf Kuhlmann, accompagné par l'Orchestre Symphonique des Pays-Bas, placé sous la direction de Jan Willem de Vrindt. Et figurez-vous que ce concerto a tellement impressionné le grand Liszt que celui-ci s'en est inspiré pour une composition encore plus difficile au piano qu'elle ne l'était déjà au violon. Alors, pour poursuivre notre collection de concertos, je vous propose maintenant la trompette, avec le final du concerto de Hummel. Enfant prodige comme Mozart, qui l'hébergera et lui donnera des cours entre l'âge de 8 et de 10 ans, ce compositeur et pianiste autrichien devient l'un des meilleurs amis de Beethoven et de Schubert. Je vous propose d'écouter ce final par le trompettiste américain Wynton Marsalis, seul artiste à avoir obtenu un Grammy Award à la fois dans la catégorie classique et dans la catégorie jazz. C'était l'irrésistible finale du concerto pour trompette de Johann Nepomuk Hummel, interprété par le trompettiste Wynton Marsalis, accompagné par l'English Chamber Orchestra sous la direction de Raymond Lepard. Je vous rappelle que l'émission de la semaine est consacrée au concerto, ce genre qui nous vient du baroque, c'est-à-dire de la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. Alors le grand pionnier du concerto pour soliste est incontestablement l'italien Vivaldi. Compositeur né à Venise, violoniste virtuose, prêtre, il est même surnommé le prêtre roux en raison de sa chevelure, Vivaldi compose en effet plus de 500 concertos différents, parmi lesquels un certain nombre de concertos pour basson, l'un de mes instruments chouchous comme les auditeurs de La Preuve par Z le savent bien. Et voici un extraordinaire largo où l'instrument soliste semble nous confier ses peines et ses joies pour notre plus grand bonheur. Vous verrez en l'écoutant qu'on a l'impression qu'il nous parle à chacun d'entre nous comme si nous étions son meilleur ami.
Thank you.
Voilà, c'était le final du concerto en ut majeur pour basson de Vivaldi, interprété par l'ensemble Laura Suave Cremona et le grand bassoniste italien Sergio Azzolini, dont je rappelle qu'il a enregistré chez Naïve l'intégrale des 39 concertos pour basson pour la fameuse édition Vivaldi. Et c'est le moment, me semble-t-il, de rappeler l'étymologie savoureuse du mot concerto. Savoureuse, puisque selon les spécialistes, elle nous renvoie à deux mots latins. Concertare, qui veut dire lutter, combattre, être en conflit, et concerere qui, bien au contraire, signifie unir, joindre. Alors, en conclura-t-on que l'union, c'est la lutte, ou que la lutte, c'est l'union? Je vous laisse juger, et pendant que vous réfléchissez, voici venir le délicieux concerto pour harpe du compositeur et violoniste autrichien Karl Dieters von Dietersdorf, un grand ami de Haydn et de Mozart, avec lesquels il aime volontiers jouer en quatuor. Et il faut bien imaginer qu'à l'époque, Dietersdorf est aussi connu que Mozart. Thank you. Vous êtes bien sur France Inter, vous êtes même très bien sur France Inter après avoir écouté ce joli final du concerto pour harpe de Karl Dieters von Dietersdorf, interprété par la harpiste hongroise Andrea Wieg et l'orchestre à cordes de Budapest dirigé par Károly Bodvay. Alors du moins connu, passons maintenant au plus connu, avec le mouvement lent du concerto pour clarinette de Mozart, dont le réalisateur Sidney Pollack a fait son miel pour son célèbre film Out of Africa. Premier concerto pour clarinette de l'histoire de la musique, je vous en propose, après beaucoup d'hésitation, une très belle interprétation par le clarinettiste suédois Martin Fröst, accompagné par la Philharmonie de chambre allemande de Brême, sous la direction de Robert Levin. Calme, sérénité, la clarinette semble un signe majestueux sur les eaux limpides des cordes, avant de s'animer et de babiller dans la partie centrale du mouvement.
Thank you.
C'était le si beau, l'inoubliable, l'éternel concerto pour clarinette de Mozart, interprété par Martin Fröst, accompagné de la Philharmonie de chambre allemande de Brême, sous la direction de Robert Levin. Et puisque nous sommes dans la famille des bois, je demande maintenant le piccolo, le gentil piccolo, l'instrument qu'aiment tous les enfants, le plus petit et le plus aigu de l'orchestre. Et c'est là qu'on retrouve Vivaldi et ses 500 concertos. Il faut dire que Vivaldi se vantait d'être capable de composer un concerto en moins de temps qu'il n'en fallait à un copiste pour le recopier. Il nous laisse donc 3 concertos pour piccolo, et je vous propose d'écouter maintenant le final de son concerto pour piccolo en ut majeur, interprété par l'excellent Jean-Louis Baumadier et l'Orchestre National de France sous la direction de Jean-Pierre Rampal. C'était le joli troisième mouvement du concerto pour piccolo en ut majeur de Vivaldi, interprété par Jean-Louis Baumadier et l'Orchestre National de France, dirigé par celui qui a été son professeur, le flûtiste Jean-Pierre Rampal. Alors maintenant une question, connaissez-vous Michael Haydn ? Alors j'ai bien dit Michael, hein, pas Joseph. Michael, c'est le frère cadet de Joseph Haydn, un excellent musicien et un très bon ami de Mozart, et d'ailleurs beaucoup de pages de Michael Haydn ont été attribuées à Mozart. On ne prête qu'aux riches. Alors de Michael Haydn, je vous propose le premier mouvement, en ré mineur, d'un concerto pour trombone, un instrument assez exceptionnel à l'époque, surtout utilisé à l'église ou à l'opéra pour des moments bien particuliers, comme chez Mozart l'arrivée du commandeur à la fin de Don Juan ou l'évocation du réveil des morts pour le Tuba Mirum de son Requiem. Alors le premier mouvement de ce concerto de Michael Haydn, dont j'aime particulièrement l'expression noble et retenue, sera interprété par le tromboniste, compositeur et chef d'orchestre canadien Alain Trudel, accompagné par le Northern Sinfonia. Thank you.
Thank you.
Le tromboniste Alain Trudel nous faisait entendre le premier mouvement du concerto pour trombone et orchestre en ré de Michael Haydn. Il était accompagné par le Northern Symphonia qu'il dirigeait puisqu'il est à la fois tromboniste et chef d'orchestre. Et nous finissons ce tour d'horizon des concertos avec le violoncelle et plus précisément avec le concerto en la majeur pour violoncelle et orchestre de Carl-Philippe Emmanuel Bach. Alors comme me le rappelait récemment son ancien élève Martin Bailly, ce concerto était le véritable cheval de bataille du célèbre violoncelliste français Paul Tortelier. Mais peut-être faut-il que je vous dise un mot de ce Carl-Philippe Emmanuel Bach, qui est donc un fils du grand Jean-Sébastien, son troisième fils très exactement, le premier à être devenu lui aussi musicien professionnel. Grand chouchou de Frédéric II de Prusse, il ne tarde pas de son vivant à devenir beaucoup plus célèbre que son père. Et Mozart disait même de lui, « Bach et le père, nous ne sommes que ses gamins ». Nous écoutons donc maintenant le final de son concerto en la majeur, interprété au violoncelle par Anner Bilsma, l'orchestre du siècle des Lumières étant placé sous la direction de Gustav Leonhardt. Thank you. l'énergie irrésistible du final du concerto pour violoncelle en la majeure de Carl Philipp Emanuel Bach, interprété par le violoncelliste néerlandais Anner Bylsma et l'orchestre du siècle des Lumières sous la direction de Gustav Leonhardt. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Hein Weinfeld et préparée avec David Delpech et Dorian Segre. Chef opérateur du son, Philippe Mercher. À la semaine prochaine.